Bonjour, il est 14h, nous sommes le lundi 18 décembre, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Puisque la fin de l'année approche à grands pas, n'ayons pas peur et regardons en arrière avec fierté. On ne change donc pas une formule qui a fait ses preuves et qui, pour sa saison 2, la relève, continue de recevoir une semaine sur deux et pendant 30 minutes de jeunes talents, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils aient de nouvelles idées. Aujourd'hui, notre invité veut changer le monde, notamment en connectant les citoyens. Quelle drôle d'idée! Charles Defresne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des membres fondateurs et peut-être même, peut-être pas le président, mais presque, de Vox.org. Vox avec un E à la fin, donc V-O-X-E pour ceux qui regardent déjà sur Internet. C'est quoi, vous êtes président, non?
Je suis pas du tout président.
Vous aimeriez bien, avouez-le.
C'est mon rêve secret, celui que j'avoue à personne, si ce n'est à ma mère. Mais je ne suis ni le cofondateur, ni le président, mais j'ai rejoint l'aventure il y a 2 ans.
Là, vous n'étiez pas du tout à l'origine du projet.
Non, à l'origine, il y a 5 ans. C'est 4 amis qui étaient autour d'une table et qui se sont dit, donc avant les présidentielles de 2012, et qui se sont dit, c'est quand même fou que nous, les jeunes, on ait autant de mal à s'informer sur la politique. On galère. Pourtant, le vote, c'est important. Et donc, ils ont essayé de créer des outils pour aider les jeunes à mieux comprendre la politique et donc à aller voter plus sereinement.
Et donc, vous, à l'époque, vous étiez encore à Sciences Po à Strasbourg? Parce que pour moi, vous venez de Sciences Po Strasbourg, mais j'ai peut-être tout faux.
Tu as tout faux. Voilà. On était en 2012 et j'étais sûrement aux Philippines en échange au lieu d'être à Sciences Po Paris.
Vous étiez passé par Sciences Po quand même?
À Paris.
Ah oui, bon, Paris, Strasbourg, tout ça, c'est pas très loin. En TGV, ça va très vite. Alors, donc Vox est né comme ça. Votre projet, c'est d'informer les jeunes sur la politique. Comment vous faites concrètement et dans quel but?
Donc notre objectif, c'est d'informer, mieux informer les jeunes sur la politique pour pouvoir en débattre plus sereinement et s'engager dans la vie publique à sa façon.
Et pourquoi, après tout, s'ils n'ont pas envie
Mais c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que 64% des jeunes ne sont pas allés se déplacer, ne sont pas allés aux urnes pour le premier tour des législatives là en 2017. Et les pratiques des jeunes évoluent, changent, bougent beaucoup. On sent, nous, une sorte de désengagement, une sorte de divorce entre la jeunesse et l'engagement politique. Et on se dit que cette abstention passive de la jeunesse, ce désengagement passif où c'est trop compliqué, ça, j'y comprends rien, ça c'est quelque chose sur lequel on peut lutter, il faut lutter.
Parce que vous y voyez quoi? Une sorte de découragement, une sorte de... On a parlé à un moment de mélancolie démocratique, c'est une sorte de finalement tout ça, à quoi ça sert, tout ce pareil, ça me concerne pas?
Au fond de moi j'y vois une modification des pratiques de l'engagement citoyen. Avant, on allait voter avec sa famille, tous ensemble, on votait comme ses parents et puis on se posait pas trop de questions. Maintenant, depuis les années 80-90, les pratiques changent. Le vote s'individualise et tant mieux, mais il faut des outils pour mieux comprendre, il faut des outils pour avoir les repères, les grilles d'analyse pour être à l'aise là-dedans. Ces outils n'existent pas forcément une fois qu'on a quitté l'école. Après, il n'y a plus de cours d'éducation civique. Il faut, il faut un bagage certain pour pouvoir bien comprendre tout ça. Et nous, c'est ce qu'on essaie de proposer.
Vous, justement, vous êtes jeune, diplômé, vous êtes diplômé depuis plusieurs années. Vous m'avez rappelé, vous avez fait Sciences Po Paris il y a quelques années. Mais donc vous avez plutôt baigné là-dedans, j'imagine, vos amis aussi. Donc les jeunes qui ne votent pas, c'est plutôt les jeunes d'autres milieux sociaux, ou c'est vraiment un phénomène général qui touche tout le monde et on en trouve aussi bien dans les écoles d'ingénieurs que, j'ai envie de dire, dans les lycées techniques?
De ce que je sens, de ce que je vois sur le terrain, c'est partagé par beaucoup de monde, ce sentiment de ne pas sentir impliqué, de sentir largué, de ne pas avoir les grilles d'analyse, si ce n'est dans les facs de sciences sociales et sciences politiques, ouais. Là où il y a une vraie passion pour le sujet. Donc je dirais que c'est partagé. Ceci dit, dans les quartiers populaires et dans les lycées techniques et dans les populations plus défavorisées, il y a un vrai sujet là, notamment de non-inscription sur les listes électorales. Donc ça, c'est de l'abstention totalement invisible et c'est un sujet encore plus prégnant.
Ouais, donc là, vous voulez, en quelque sorte, c'est une sorte de transmission entre jeunes. Donc c'est quand même ça l'idée, c'est que ce soit des jeunes qui s'intéressent à la politique et voir d'autres jeunes qui... En tout cas, donner les clés à d'autres jeunes qui n'ont pas le temps ou pas envie de s'y intéresser.
On est là-dessus. En gros, voilà, nous, notre objectif.
Comment ça marche, en fait? On va... Soyons très,
très concrètement.
Comment ça marche?
Très concrètement. Notre ambition, voilà, c'est nous, les jeunes, on crée des outils pour que d'autres jeunes puissent mieux comprendre cette politique et y aller. Comment ça marche? On a créé en 2012, donc, un comparateur de programmes politiques. Où on s'est dit qu'entre les PDF sur le François Hollande 2017.fr et la petite phrase sur Europe 1, il y avait un juste milieu.
Attendez, en 2012, il y avait François Hollande, c'est ça?
Nicolas Sarkozy 2012.
Ouais. Rappelez-nous qui était là.
On était sur Ségolène et Nicolas en 2012.
En quoi? Non, en 2012, il n'y avait plus Ségolène, c'est François Hollande et Sarkozy, je pense. Hein. Puisqu'en 2017,
c'est
on a
ça,
eu. C'est ça,
ça
ouais.
C'est ça.
Ouh là donc, là, il y avait François Bayrou, il y avait. Non, mais c'est pour essayer
il y avait
de.
Tout, ça. Tout à fait. Mais en gros, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'accès à cette information au programme est compliqué. Nous, on va créer un outil qui le rend beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Et donc, très concrètement, on est sur le site vox.org. Et
là, avec un E.
Avec un E, évidemment. On arrive sur une plateforme, on choisit une élection, on choisit deux candidats. On choisit une thématique qui nous intéresse, que ce soit collectivité territoriale, environnement, santé, sécurité, ce qu'on veut. Et là, il y a les propositions officielles des candidats qui arrivent. Et ce qui permet d'après de choisir, de naviguer, de choisir d'autres candidats, de choisir d'autres thématiques et de se faire un avis et de dire bah, « Ok, facilement, en 5 minutes, j'ai eu les propositions sur les thèmes qui m'intéressent, je peux aller voter pour le candidat qui est plus proche de moi. » Au-delà de « Il a une belle gueule », au-delà de « Il parle bien », au-delà de tout ça, on facilite l'accès aux propositions officielles, concrètes du programme.
Et c'est, l'idée, c'est d'être. Ouais, c'est ça, c'est, on va vraiment sur les thématiques qui m'intéressent. On n'est pas dans la philosophie générale du programme. Donc on est un peu. Est-ce que c'est pas un peu consumériste?
Oh oh. Aïe, on attaque. Non, je rigole.
Oui, un petit peu quand même.
On a essayé de nous le structurer, l'organiser pour que ça soit facile. Il y a. Rappelons que Bruno Le Maire a pondu 1000 pages de programme pour la
vrai.
Primaire. Donc c'est un vrai sujet de le rendre accessible pour tous et compréhensible pour tous. Et donc nous, on a pris ce parti-là, cette ligne éditoriale, de le classifier selon les thématiques.
Et est-ce que vous avez par exemple des candidats qui vous appellent en vous disant, mais vous avez dit qu'on avait dit ça, mais pas du tout, c'est faux? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ça vous est déjà arrivé, ça?
Ça nous est déjà arrivé. En tout cas, en 2012, on était encore des newbies sur la scène et on a fait ça sur notre temps soirée week-end.
Aujourd'hui, vous êtes plus structuré.
On est plus structuré, ouais, depuis maintenant 3 ans. Et donc, en 2012, c'était du copier-coller des programmes officiels. Et donc, il n'y avait aucune éditorialisation de cela, mais seulement des copier-coller. Et en 2017, on avait gagné un peu de bouteille. Sur les 5 ans entre 2012 et 2017, on s'est installé dans différents pays. On a prêté notre outil qui est gratuit, open source et ouvert à tous. On l'a prêté à des ambassadeurs dans 19 pays différents. Et donc, on était en Indonésie, on était au Bénin, on était aux États-Unis, on était en Roumanie, en Russie, à chaque fois avec des personnes qui l'ont installés pour leur pays, qui ont eux-mêmes rempli les programmes et qui ont contacté la presse, etc. Donc on a couvert 26 élections en 5 ans et en 2017, pour terminer là-dessus, on a eu un peu plus de bouteilles, on était un peu plus solide et c'est là où on a travaillé directement avec les équipes de campagne qui ont rempli elles-mêmes les programmes.
Et donc, vous travaillez que pour les présidentielles, vous travaillez aussi pour les législatives, vous pouvez travailler pour des scrutins locaux ou vous voulez vraiment rester au niveau national?
On travaille sur toutes les élections en France, donc départementales, régionales, présidentielles, législatives, etc. Sur les législatives, c'est un défi incroyable parce qu'il y a 577 circonscriptions de mémoire.
Avec à peu près 12 candidats à chaque fois.
Donc ça devient un enfer logistique absolu. Donc on a acté...
Oui, parce qu'il y a des fois des enjeux locaux. Ça va être, est-ce que le député est pour ou contre la construction d'une route là ou d'une mosquée dans certains coins.
Donc là, on est arrivé à la limite de notre modèle. Donc nous, on a comparé les programmes nationaux qui existent pour de vrai. Donc les partis, chaque parti a édité sa ligne pour les élections législatives qui s'adaptent au niveau local. Mais nous, on n'avait pas la force de frappe d'arriver avec cette finesse-là.
Comment vous avez observé un mouvement comme Nuit Debout, qui est un mouvement de plutôt de jeunes quand même?
Oui.
Moi qui suis vieux, j'ai eu l'impression que c'était plutôt des jeunes. Ça contredit ce que vous dites ou c'est... Au contraire, non, c'est ce que vous disiez, c'est plutôt des jeunes qui font des sciences sociales et des sciences politiques qu'on a vu là-bas. Vous y êtes jamais allé,
je pourrais avoir une analyse là-dessus. En tout cas, nous, on a. Enfin, moi, j'ai personnellement, très personnellement, j'y suis pas mal allé. J'ai été bluffé par l'énergie et la spontanéité de ce mouvement-là que j'ai pas mal suivi. Et moi, ce qui m'a touché, c'est ce besoin d'espace de dialogue, de rencontre, avec de témoignages de gens venir raconter leurs galères, leur précarité, leur révolte. Et cette vraie force-là, moi, ça m'a bluffé. Et je note, et ça rejoint un peu notre analyse du début, les pratiques politiques changent. C'est pas qu'il y a un désengagement de la jeunesse, ça veut rien dire, ça, la jeunesse, qu'est-ce que c'est? Mais les pratiques changent, c'est moins automatique qu'avant, c'est moins familial, c'est moins communautaire.
Ouais, c'est vrai, beaucoup moins familial finalement, il n'y a plus ces traditions familiales où tout le monde allait voter comme le père
exactement.
Le dimanche en groupe. Déjà, tout le monde n'habite plus au même endroit.
Et avant, c'est aussi les partis qui s'occupaient de la formation et de la formation idéologique de leurs membres. Là, ce n'est plus du tout le cas. C'est une des choses qu'on essaie de faire, nous, avec nos cours d'éducation civique.
One, two, three, four. What I could have told you, but I don't believe I've the balls to let you know. I can say that 'cause I'm a man, but I feel like a little boy today.
I cherish my intercontinental friendships. We talk it over breakfast in a hotel in East Bumble, wherever,
somewhere on the sphere around here. I cherish my intercontinental friendships. Not much very big on enemies, so I kick a can way up into the sun, man, but it falls down into a ravine. I don't mean to even think about it that way, but I do.
Watching the waves come in at night from my back porch to porch swing. Swinging on its own. See, it's just an inhabitant of some holy ghost.
I walk like a bruised ego along shorefront property unknown to me.
But I'm feeling inferior on the interior. Don't you see? Guarded and sentimental.
And after all, it's just a rental.
Like better luck performing telekinesis on a priestess.
You won't believe what I might have, could have told you. But I wouldn't want to leave you tripping out over it. Okay, more so me, but
or just me. Watching the waves come in at night from my back porch to porch swing. Swinging on its own. See, it's just an inhabitant of some holy ghost. Yeah.
cherish my intercontinental friendships. We talk at over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever.
Somewhere on the sphere, around here.
Eh bien, l'autre disait que le silence qui suivait Mozart, c'était encore du Mozart. Et donc, le silence qui suit Courtney Barnett et Kerrville, c'est encore du Courtney Barnett. Comme j'arrive bien à le dire, je le dis deux fois, et Kerrville. En tout cas, ça s'appelait Continental Breakfast et c'est un extrait de leur EP, comme on dit sur France Inter, Lotta Sea Lice. On est toujours à la relève, on est toujours avec Charles Defresne, qui n'est pas président de Vox, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, Vox avec un E.org, sans E. Donc, vous nous avez expliqué en fait comment vous aviez monté un comparateur de programmes, et je voulais vous demander, on va sur votre site internet, on découvre que vous faites aussi des polkas. Qu'est-ce que c'est une polka?
Qu'est-ce que c'est un polka?
Un polka en plus.
Faut que je revienne un peu en arrière pour vous expliquer tout ça.
Et puis doucement, parce que je suis pas jeune, moi. Donc,
Le comparateur de programmes politiques, c'est pas mal, mais on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin et on sentait qu'on arrivait au bout de cette solution-là. Et donc, on a décidé de faire autrement et de faire mieux, toujours pour aider les jeunes à mieux comprendre la politique et en débattre plus facilement, plus sereinement. Et là, on a créé des outils d'information dont on parlera peut-être plus tard, donc sur des outils numériques pour mieux comprendre le débat public, et des formations et des ateliers dans la vraie vie, parce que la politique, c'est aussi ça, c'est rencontrer des gens, en discuter, etc. Et notre ambition, donc on a créé ça en août 2016, c'est de créer un format d'atelier qui puisse permettre de discuter sereinement de politique avec des inconnus. Pas simple. Donc ça dure 2 heures, ça se passe dans les bars, mais ça peut être aussi dans la classe, en réunion de famille, où vous voulez. Ça dure 2 heures et c'est tout un format où on se retrouve en petits groupes à la fin, tiré au hasard, etc. Et on discute, on débat de sujets politiques précis.
Mais qui choisit les sujets, vous?
Ça dépend, mais si tu veux en organiser un, tu peux en organiser un demain. Là, typiquement,
mais il faut que je sois jeune ou pas?
Tu peux être ouvert à tous. Nous, en gros, on cible. Nos outils s'adressent à tous, évidemment, mais quand on les conçoit, on pense aux jeunes, on pense aux outils, aux plateformes où sont les jeunes, on pense à ce qui plaît aux jeunes, à la communication qui plaît aux jeunes, jeunes 18-35, hein, donc ça reste très large. Et voilà. Donc ce polka, son ambition, voilà, c'est d'aider chacun à discuter des sujets politiques qui m'intéressent, mais que ça soit serein, pas comme
En fait, c'est un outil que n'importe qui peut utiliser dès lors qu'il veut. En fait, c'est un peu comme de l'open source.
C'est carrément de l'open source. Donc nous, on a un mode d'emploi du polka que tu peux télécharger sur notre site. Et tu peux en organiser partout, à Saint-Jean-de-Luz ou à Lille, où tu veux. Et nous, on en organise avec nos bénévoles, une fois par mois à Paris.
Mais qui sont ces bénévoles ?
Ces bénévoles, c'est des jeunes qui ont, voilà, entre 18 et 35 ans, qui ont une envie, c'est d'aider les lycéens, les jeunes, tout le monde à mieux comprendre la politique, à vraiment à prendre soin du débat public, à se dire que la démocratie, elle mérite mieux que des engueulades sur on n'est pas couché, et à vraiment, voilà, se donner les moyens pour prendre soin de cette démocratie. Et donc, on organise avec eux des polkas, des débats dans les cafés et des interventions dans les lycées, où là, on va débattre avec les lycéens, discuter d'engagement citoyens, de politique, de comment ça vous concerne.
Vous en faites beaucoup d'interventions dans les lycées aujourd'hui?
On en fait pas mal, ouais. On en fait pas mal. On en fait une quarantaine par an à Paris, en Ile-de-France, pas mal en zone d'éducation prioritaire. Et on essaie de se déployer en ce moment sur 7 villes de France, notamment à Bordeaux, à Lyon et à Angers.
À Paris, ça va? Vous avez ce qu'il vous faut? Ou vous cherchez aussi des bénévoles? Si on a des auditeurs qui s'intéressent d'aller faire ça, ils peuvent vous contacter via le site Vox avec un E.org.
Ouais, carrément. Et nous, on cherche toujours des bénévoles, on cherche toujours des personnes qui sont intéressées pour ça.
Vous avez par exemple, aujourd'hui, il y a des lycées qui vous demandent et auxquels vous êtes obligé de dire non parce que vous n'avez pas de bénévoles disponibles?
On a pas mal d'intérêts, en tout cas. C'est en train de bien s'organiser. Et on a, nous, notre mission, c'est de former le maximum de bénévoles pour pouvoir multiplier et démarcher de plus en plus de lycées. Et donc, effectivement, nous, on est vraiment en recherche de bénévoles et de bonne âme et de bonne volonté, bonne énergie pour prendre soin du débat public.
Sélectionnez ces bénévoles ou dès lors que quelqu'un, vous vérifiez un peu qui ils sont, comment vous faites ça? Parce que on imagine très bien que ça pourrait se faire noyauter par des partis politiques.
Bien sûr,
nous, le journaliste est méfiant.
Mais il a bien raison. On a évidemment une posture et une neutralité et de, on est évidemment apartisan pour voilà, être vraiment le garant, l'outil neutre qui permet à chacun de se faire son propre avis. On n'est pas là pour dire pour qui voter ou qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, ça n'aura aucun sens. Et donc voilà, on rencontre chacun de nos bénévoles, on les forme, il y a une vraie formation à comment prendre la parole en public, comment faciliter un débat, comment quelle posture adopter face à des propos raciste ou méfiant ou un silence absolu dans la classe. Enfin, voilà, on donne les billes là-dessus pour que tout se passe bien.
Pour un étudiant qui nous écoute en ce moment et qui a envie de s'impliquer, c'est aussi, il va apprendre des choses.
Exactement. Et puis c'est des interventions en binôme avec une vraie énergie. Enfin, on prend soin de nos bénévoles. Il y a toujours des gros apéros et ça se passe bien. Donc il y a une bonne communauté.
Avec modération les apéros, bien sûr. Hein.
Et une chouette communauté de bénévoles qu'on essaie d'élargir.
Vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui ?
En ce moment, on est 50.
Ah oui.
50, 60, ça dépend, ça tourne beaucoup parce que c'est beaucoup d'étudiants. Et on est en train de structurer cette communauté-là, notamment pour le déploiement national. Mais à Paris, on cherche toujours.
Ouais, ce qui est dur, c'est qu'on est bien placé pour savoir à Radio Campus Paris, c'est que le bénévole, c'est bien d'avoir, mais c'est qu'il soit là durablement.
Et nous, comme on s'adresse beaucoup à des étudiants, effectivement, la vie change, on bouge, on va à l'étranger, on va dans d'autres villes, etc. Mais c'est pas très grave parce que ça peut être des engagements plutôt courts, 3, 6, 9 mois, et on s'adapte.
Par contre, vous demandez aux gens, une fois qu'ils s'engagent, s'ils s'engagent sur 3 mois, qu'ils vraiment 3 mois.
On est souple, on n'est pas comme d'autres associations où c'est des engagements annuels, etc. Nous, on s'adapte à cette contrainte-là et on fait selon les cas.
Vous intervenez, alors je crois que vous êtes intervenu récemment pas les fake news, sur la théorie du complot.
Les théories du complot, exactement.
Ça, c'est quelque chose que vous voulez développer.
Bah alors, en gros,
les
événements, alors c'est ce dont je m'occupe, c'est mon petit bébé. On a les grands classiques. Les grands classiques, c'est aller dans les lycées pour débattre et faciliter les débats politiques avec les jeunes. On a ces polkas, ces cafés politiques, ces apéros de débat dans les bars. Et puis après, on expérimente de nouveaux formats. On se lâche, on se donne les moyens de faire des beaux formats, toujours pour dépoussiérer l'éducation civique. Toujours pour réinventer les cafés débats. Et le dernier, c'était pour la nuit des débats à Paris. Donc c'était jeudi 23 novembre. Et là, on s'est dit, tiens, ça serait hyper intéressant de pouvoir creuser les théories du complot. Qu'est-ce que c'est le complotisme ? Qui est derrière cela ? Pourquoi on y croit ? Comment on désamorce ce discours-là ?
Propre de celui qui adhère à une théorie du complot, c'est qu'il croit que ce n'est pas un complot. C'est le principe du paranoïaque. Même les paranoïaques ont des ennemis.
Donc, il y a de ça. Et surtout, ce qui est très difficile avec cela, c'est que plus on argumente avec quelqu'un qui croit à une théorie du complot, plus on fait partie nous-mêmes du complot, donc plus on est l'ennemi. Et là, il n'y a plus de débat. Et donc, ce qu'on a fait, on a visé très haut. On a voulu faire la très, très secrète nocturne complotiste dans les catacombes de Paris. Ce qui aurait été incroyable. Mais ça n'a pas marché. Donc, on s'est.
Vous n'avez pas eu le temps parce
On a secoué, on a eu des bons relais dans la mairie de Paris pour faire des. Ils étaient hyper partants pour l'idée, mais ça s'est perdu dans les affres de la complexité administrative que peut être une ville de cette taille. Et mais on a quand même un chouette soutien des services de la ville et on a pu faire ça dans un sous-sol d'un bar. Donc il y avait quand même l'esprit voûté et pierre apparente. Et donc ça a duré 2 heures, on a eu 1 heure avec un journaliste de Spicy, Thomas Huchon, qui fait un travail vraiment intéressant sur ce sujet-là, pour mieux comprendre et analyser ce phénomène. Et après, on a passé 1 heure à créer sa propre théorie du complot. Chacun a pu repartir avec sa théorie du complot chez lui, ce qui a permis par la pratique de mieux comprendre comment ça se passe.
Vous pensez justement, parce que vous êtes beaucoup sur la pratique, sur des outils pour aider, et donc là, notamment avec en ayant des outils pour créer soi-même sa propre théorie, vous pensez que ça rend après plus vigilant
En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, l'ambition, c'est d'utiliser des méthodes pédagogiques qui mettent en action, qui soient à la fois intéressantes, pertinentes, mais aussi fun et qu'on passe un bon moment. Donc, c'est toujours cette idée de dépoussiérer l'éducation civique. Et donc, typiquement, ce genre d'outil où on crée sa propre théorie du complot, on se marre. Pour de vrai, on boit des bières et en plus on apprend pas mal de choses et ça nous arme pour avoir un esprit critique plus affûté sur ce genre de sujet. Donc la mission était remplie.
Vous avez aussi lancé une sorte de pétition en ligne pour obtenir un rendez-vous avec le président de la République qui s'appelle Rendez-vous avec Macron. C'est quoi ? C'est juste pour le voir, pour faire une photo avec Brigitte ? C'est quoi le but ?
Alors le but, ça remonte en avril où on a pris un van, on s'est dit tiens, les ateliers ça marche bien à Paris, ça marche bien en Ile-de-France, mais pourquoi rester seulement dans notre région ? Pourquoi pas aller partout et parler à tous les jeunes ? Et Et donc on a mobilisé 35 bénévoles suractifs, hyper investis, et ils se sont relayés dans un van pour tourner pendant 3 semaines, faire le Vox Tour, donc tourner sur les routes de France.
Vox avec un E toujours.
Vox avec un E, pour aller créer des ateliers partout, des débats partout, dans la rue, dans les bars, dans les lycées. Donc il y a eu 50 événements en tout pendant ces 3 semaines, 35 bénévoles, on a rencontré à peu près 800 jeunes et récolté les propositions à chaque fois. On leur proposait, tiens, moi président, voilà ce que je proposerais, une proposition phare. Et dans ces 3 semaines, on a récolté énormément de propositions, 8000 de mémoire, il faudrait que je vérifie mes chiffres. Et de tout ça, à chaque fois, la promesse c'était, bon bah écoutez, nous on est juste le porte-parole de ce qu'on reçoit auprès de vous dans la rue, partout, dans les gares, dans les lycées, on va aller le porter à Emmanuel Macron. Et on a essayé de monter une énorme mobilisation là-dessus, à chaque fois, ok, super, ok, je donne ma proposition, ça va être ouf. Et donc, une fois arrivé à Paris, on a les toqués à l'Elysée, on a essayé de mobiliser là-dessus. On a eu des chouettes rendez-vous auprès de communicants et de chargé des affaires publiques, de tout ça, d'Emmanuel Macron, mais on était à un moment où il verrouillait sa com comme jamais, et donc on n'était pas assez...
Vous aviez un peu du cahier de doléances de la jeunesse ?
C'est ce qu'on a proposé, ça, ouais. Une sorte de livre blanc de la jeunesse, mais en beaucoup plus attrayant, parce que c'est tout ça en format vidéo, puisque ouais. Les livres blancs, par définition, personne ne les lit. Donc là, c'était une vidéo.
Il y avait quoi comme proposition, comme demande dedans, ouais. On n'a pas préparé, je ne veux pas vous piéger, mais par exemple...
Il y a de tout, et c'est ça qui nous a plu. Donc il y avait fermer les usines nucléaires, il y avait plus de logements et de logements plus décents pour les jeunes et pour les précaires. Ouais. Il y avait sur le travail, ce qui revenait souvent, c'était démocratie et participation citoyenne, etc., environnement et éducation, mais on a aussi eu des propositions qui plus marquées à droite, voire nationalistes, voire proches du FN, et c'est des propositions qu'on n'avait pas nous dans nos ateliers, qu'on voyait pas avant dans nos ateliers, et donc on s'est dit bah là on a réussi à rencontrer ces jeunes là et c'est quand même un tiers des jeunes qui votent pour le parti du Front National, et c'est en prenant la route et en allant partout qu'on a pu enfin les rencontrer, et on s'est dit que c'était quand même un succès.
Vous pensez que Vox avec un e.org, j'aurais répété, hein, si les gens ne sont pas, si on n'a pas fait sauter là votre serveur, c'est à désespérer. c'était mon but secret. Vous pensez que vous auriez pu vous développer de la même façon sans Internet ? Vous êtes un peu vous utilisez beaucoup d'outils numériques finalement dans ce que vous faites. Vous êtes des enfants du numérique. Toutes vos actions sont liées à ça.
Oui, bien sûr. Mais sans Internet, non, ça n'aurait sûrement pas pris la même forme, c'est sûr. Dans l'équipe de base, il y avait des développeurs, il y avait des passionnés des outils numériques. Et c'est pour ça qu'on est l'un des leaders, en tout cas des plus anciens, de la Civic Tech, cette scène qui est bouillonnante en France, où c'est des initiatives qui mêlent les outils numériques et la démocratie pour l'engagement citoyen. Et c'est pour ça que...
Vous lancez un chabot.
Exactement.
Pardon, que vous avez vu, c'est pensé tout ça. Hein.
Bravo. Donc évidemment, sans le numérique, on n'aurait vraiment pas la même forme actuellement.
Vous pouvez nous en parler de ce chabot quand même.
Et ce chabot, qu'est-ce que c'est un chatbot ? C'est un robot, une intelligence artificielle qui permet de converser. Donc là, c'est sur Messenger. Vous allez sur votre barre de
Facebook
recherche.
Facebook Messenger, non ?
Facebook Messenger. Vous allez sur Facebook.
Je le sais parce que je l'ai testé, ça marche très bien.
Ah,
faut le dire.
Yes. Donc sur Facebook Messenger, dans barre de recherche, vous tapez Voxbot, VO. XEBOT, et là vous arrivez sur notre chatbot. Donc c'est une intelligence artificielle, derrière c'est un robot avec qui vous pouvez parler, discuter, comme envoyer des textos comme un bon pote, et lui il va vous expliquer le débat public. Évidemment derrière il y a nos équipes de journalistes qui créent le contenu, mais c'est l'interface du robot qui va choisir les bons contenus à vous délivrer au bon moment. Donc en gros la vocation...
C'est un gros investissement un truc comme ça ?
C'est beaucoup de travail de développement, et c'est beaucoup de travail aussi sur l'expérience utilisateur et comment trouver le bon média, la bonne forme pour délivrer ce contenu, être le plus pédagogue et avec le bon ton pour aider les jeunes à mieux comprendre. Actuellement, on a 70 000 personnes qui utilisent ce chatbot et ça continue à bien grossir.
C'est une sorte de média finalement, mais c'est un média interactif.
Exactement, ça réinvente la façon de s'informer, donc c'est un média et ça personnalise, ça affine l'apport de contenu. Et en gros, nous, notre vocation, c'est de parler à des personnes qui ne vont pas sur lemonde.fr ou Libé ou Le Figaro tous les matins et qui se sentent un peu larguées par la politique. Et nous, on les aide à mieux comprendre tout ça et sous un format qui leur plaît là où ils sont, c'est-à-dire sur Facebook, sur les réseaux sociaux.
Vous voulez ubériser, pour employer ce vilain mot, la presse, non ? Vous voulez
pas
créer une
tout.
Presse alternative, en fait.
On veut créer des outils qui nous paraissent intéressants
pour les
personnes.
C'est toujours la même chose, c'est éclairer le débat public, Et c'est un prolongement finalement du comparateur de programme, mais dans un autre format.
C'est le prolongement du comparateur de programme, mais aussi pour développer l'esprit critique derrière chaque proposition. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux derrière. Et il y a une vraie potentielle, enfin il y a un potentiel d'innovation incroyable. Et je vous conseille d'aller faire un tour, c'est évidemment gratuit. Donc allez faire un tour, voir à quoi ça ressemble. C'est très difficile de l'expliquer, mais ouais, quand on l'utilise, c'est hyper simple. Très simple.
Je suis d'accord, hein, pour l'avoir fait, c'est vraiment très simple. Merci Charles Defresne d'être venu aujourd'hui nous parler de Vox.org. Je rappelle que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie d'être bénévoles, ils peuvent vous contacter via le site. Voilà, vous venez d'écouter La Relève. C'était une émission réalisée par le très investi Louis Julien. Il est au cœur du débat. Elle était préparée et présentée par Christophe. Noël approche, alors avec Louis Julien, nous vous souhaitons à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année. Le prochain rendez-vous de La Relève, c'est dans 335 heures. C'est toujours pareil, et pour une fois, j'ai réussi à le dire sans bégayer. Nous serons déjà en 2018. Alors d'ici là, amusez-vous, écoutez le programme musical de Rantio Campus et puis soyez heureux. Merci, à l'année prochaine.
À bientôt.
One day, in May, it suddenly happened.